Monteagudo.
Bienvenue à bord, les amis. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, en direct de Washington, la capitale américaine, où vous nous captez chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Et ça nous fait tellement plaisir de vous savoir nombreux. Et bien sûr, notre sujet de la semaine continue, mais aussi, comme ceux-là qui sont amis à moi sur les réseaux sociaux, vous savez que ce soir, nous avons un invité. On en parlera dans cette émission. Nous voilà, nous décollons déjà. N'oubliez surtout pas que notre numéro pour nous avoir en live en direct, c'est au plus 1-703-350-37-31. Encore une fois, c'est au plus 1-703-350-37-31. Vous nous captez partout dans le monde, comme vous le faites d'ailleurs habituellement. Et ça nous fait tellement plaisir. Notre sujet, je vous rappelle, dans un monde où les relations amoureuses semblent de plus en plus complexes, comment gérer, c'est la grande question, comment gérez-vous le dilemme de l'amour partagé, où l'on peut aimer quelqu'un tout en ressentant des sentiments pour une autre personne. C'est ce que vous avez proposé cette semaine et on en parle bien sûr. Bienvenue encore une fois dans RM Show où cette semaine nous abordons ce sujet qui est délicat et aussi universel. Les intrications bien sûr, nos amis qui sont en train de nous capter, merci aux amis qui sont en train de nous capter à Lomé au Togo. Nous avons tous entendu des histoires où quelqu'un aime une personne mais ressent également des sentiments pour une autre personne. Comment naviguer dans ces eaux troubles où les cœurs sont partagés entre deux âmes? On en parle cette semaine en écoutant de la bonne musique et notre invité sera là dans un instant. D'abord on écoute ce morceau de Alan Jackson tout de suite.
That old sun comes up every morning, goes back down at the end of every day. It's just that way. Stars show up every evening, man in the moon comes out to play. The world. just said wait. That old sun comes up every morning. It's just that way.
Et voilà cette superbe chanson, les amis, vous qui aimez la musique country et vous qui nous captez partout dans le monde, n'oubliez surtout pas que vous pouvez toujours nous avoir entre 20h et 21h temps universel pour participer à cette émission ou bien sûr réagir à notre sujet de la semaine. La chanson qu'on venait d'écouter, c'est Alan Jackson, qui est un chanteur en tout cas connu de la country music, renommé en tout cas, hein, et trop célèbre d'ailleurs pour cette musique, hein, de honky tonk. Il est né en 58 en Georgie. Bien sûr, il a débuté sa carrière musicale à la fin des années 1980 et il a connu la gloire vers les années 90. Merci aux amis qui sont en train de nous capter ce soir. Je le vois déjà tout de suite à Brazzaville et à Pointe-Noire. Vous êtes nombreux à nous capter et n'oubliez surtout pas qu'on vous salue toujours dans RM Show. Et donc n'hésitez pas de nous écrire au plus 1-703-350-37-31. Miyakisika déjà nous capte. Merci beaucoup à Miyakisika qui nous capte. Merci infiniment à qui encore? Christian qui nous capte. Jingo Niemazi qui nous capte aussi, Shadrach Ekofo nous capte en ce moment, on lui dit merci. Et bien sûr, comment oublier notre ami qui nous capte comme d'habitude, Serge Bouika à Kinshasa. On disait en titre, notre invité de ce soir, notre collègue Sims Loumami, le réalisateur, est avec nous ce soir. Déjà on salue Sims Loumami, c'est un grand plaisir, un honneur. Sims qui n'aime jamais être devant devant la caméra. Sims, comment ça va, Sims?
Ça va très bien, Roger, et vous?
Sims, on peut, Michel, on peut diminuer le cote là, parce que tu es un peu trop là, je n'entends pas Sims. Et Sims, si tu t'approches un peu du micro, ça serait pas mal du tout.
Ouais, bonsoir, Roger, comment tu vas?
Ça va super bien, et
ouais,
toi?
Ça va.
Un peu stressé?
Non, ça va.
Parce que toi, tu n'aimes pas être devant.
J'aime pas le micro, j'aime pas la caméra.
Mais pourquoi d'abord, tu n'aimes pas la caméra?
En fait, je suis habitué à être derrière, à créer une histoire. Mm. Je préfère donner mes émotions ou l'idée de l'histoire à quelqu'un, comme ça quelqu'un peut mieux les transmettre à ma place.
Exactement, et ça tu le fais d'ailleurs si bien, si bien. Et d'ailleurs aujourd'hui on t'a quand même invité dans cette émission, Sims, pour parler de ton tout dernier projet Frame of Hope, qui est très important, et on se tutoie hein, dans cette émission, okay. Bien sûr, où tu nous parles de ton ami Robert, hein, n'est-ce pas, Robert?
Ouais, je sais.
D'abord, j'aimerais savoir comment, Sims, tu as rencontré le personnage principal même de ce film documentaire. Comment tu as rencontré Robert pour la première fois, et quelle a été d'ailleurs l'impression que tu avais quand tu as rencontré Robert, comme vous l'appelez ici aux États-Unis?
Ok, so, pour mettre ça clair...
J'aime comment tu commences, so, ça se voit, c'est un anglophone.
Yeah. Quand je suis arrivé ici aux États-Unis en 2015, j'étais entouré, moi, mon idée c'était de continuer ma mission de travailler dans le monde des médias, multimédia et tout ça. So, j'avais commencé avec mes frères du pays que je connaissais. So, on a essayé d'ouvrir...
Je me rappelais que Sims Loumami, c'est un Congolais d'origine.
Ouais, je suis Congolais.
Donc, tu as commencé avec tes frères congolais.
Ouais.
So, et tu es de Lubumbashi.
Ouais,
pour nos amis qui nous captent à Lubumbashi, vous connaissez déjà Sims Loumami.
Ouais.
So, et donc, tu voulais d'abord travailler avec...
Ouais, mon idée, tu sais, quand tu viens avec ce que je faisais déjà au pays, avec... J'avais beaucoup de collaborations au pays. J'ai travaillé avec Papa Wemba, j'ai travaillé avec beaucoup des artistes renommés du Congo et les artistes à l'international aussi. So, quand j'étais venu ici aux États-Unis, moi, déjà dans ma tête, je croyais que ça allait être la même chose. Ça allait être
la même chose, c'est-à-dire quoi? Plus facile, hein?
Oh, non, pas plus facile, que j'allais directement commencer à bouger.
Ah, d'accord.
Le genre, j'ouvre les studios, j'aurai les clients, j'aurai tout ça, je vais fonctionner comme chez nous, quoi.
Exactement.
Mais on a essayé de travailler entre nous. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit blocage. Il y avait un petit blocage parce que je me disais, c'est pas pour ça que je suis venu ici aux États-Unis. Mm-hmm. Je suis venu ici aux États-Unis pour comprendre comment les Américains fonctionnent, mm-hmm. comment les Américains font leurs films, comment les Américains font leur musique. Mm-hmm. So, pour que je puisse m'épanouir, pour que je puisse bien apprendre, il faudra que je trouve des Américains, Américains comme ça, je vais apprendre leur culture, je vais apprendre comment ils fonctionnent. So, il fallait trouver les gens du domaine. So, pour trouver les gens du domaine, il n'y avait, avait qu'une seule façon de le faire. Soit aller à l'université où il y a les cours de cinéma ou de musique. So, j'avais essayé entre American University et puis Maryland University.
American University qui est réputée côté mm-hmm. cinéma, mm-hmm. voilà, ouais. communication, journalisme
ouais.
et tout.
Ouais. Oui. Ouais. En même temps, je partais à l'université. Et aussi, je voulais pas, j'avais pas le temps de rentrer encore à l'école pour parce que ça coûtait trop cher pour moi et je voulais pas dépendre encore des parents. Je voulais recommencer ma vie, mais en travaillant, so, j'étais sur ça. So. Quand je suis arrivé, je me suis présenté, j'ai croisé plusieurs personnes, des étudiants. Et quand je suis arrivé à Maryland University, on m'a recommandé, on m'a dit, il y a un monsieur qui a un centre, qui a un centre qu'on appelle Bureau Media and mmh. Art, mmh. un centre où on apprend on apprend aux enfants de, oui. de 10 à 20 ans tout ce qui est art en général. Je dis, ah, c'est intéressant. Mmh. Comment je peux entrer en contact avec le monsieur? À l'époque, la langue était vraiment une barrière parce que j'ai fait un peu la Chine, mais la Chine, on faisait plus les
cours. Tu as fait la Chine?
Ouais.
Donc tu parles chinois?
Ouais. Ouais, mais j'ai. So, après, quand on est arrivé ici, quand on était en Chine, à l'université, on était c'était plus les mandarins qu'on sort.
Oui, oui, exactement.
So, ouais. Avec mon background de francophone, mm-hmm. Tout ce que j'avais, c'était que j'avais des documentaires, j'avais des clips mmh. à montrer qui étaient déjà en ligne.
Ouais, so, que tu avais déjà.
Et, so, au départ, j'ai fonctionné, j'ai montré aux gens que j'avais. C'est moi qui ai fait ça, le présenter. So, quand j'ai rencontré Robert, il m'a dit, c'est sûr, tu as fait ça. J'ai dit oui.
Il n'en revenait pas, quoi.
Yeah, yeah. So, il m'a dit, beaucoup de gens peuvent uploader les histoires en ligne. Est-ce que si c'est réellement toi? J'aimerais que tu viennes, on a besoin d'aide. Si tu peux commencer à faire du volontariat, venir aider les enfants à filmer, qu'on sort. C'est comme ça que j'ai rencontré Robert. Et mon anglais n'était pas très clair, so, il me comprenait à peine. Mais les gars étaient si patients.
Oui.
Ils étaient très très patients parce oui. que, avec l'approche qu'on avait des Noirs américains, déjà nos frères africains entre nous, quand on arrive ici aux États-Unis, la plupart, on a peur, on dit que c'est dangereux de coopérer avec les Noirs américains, il faut rester entre nous, ces gens-là sont dangereux, ils nous aiment pas, on n'a pas les mêmes backgrounds. Mais moi, c'était pas le contexte.
C'était pas l'expérience
que j'ai avec Robert. So, Robert était très très patient avec moi, j'ai fait des histoires gratuitement, petit à petit, et alors je lui ai dit, ah, c'est bien beau de faire tout ça, mais j'ai besoin de quelque chose qui peut me permettre à vivre. Est-ce que tu peux m'aider à... Mais je cherche un travail. So, Robert, à première vue, il ne voulait pas me donner des histoires facilement, quoi. Il voulait que je mérite ça. So, petit à petit, ça...
Comme tout bon Américain.
Yeah, yeah. Ça a pris, là, 6 mois. Chaque fois, j'essayais d'appliquer les boulots. La plupart des fois, on ne me répondait pas. C'était compliqué. Une fois là, j'étais avec lui, il m'a vu comment j'étais courageux, on faisait plusieurs trucs, je l'accompagnais dans des événements. Des fois, il m'a donné un petit rien, mais il m'a dit, j'ai une position pour toi au bureau de BET qui est fermé, mais ça a transité, ça a changé de nom, c'est maintenant DC Cable. Il m'a dit qu'on a besoin d'un caméraman, d'un flow, de camera operator. So, mon premier, c'était un très bon boulot. C'était un boulot.
Et c'est ton premier travail
aux États-Unis. En média.
En média.
Ouais, aux États-Unis.
Wow.
So, moi, avec l'esprit que j'ai, moi, dans mon domaine, même si j'ai jamais touché à une caméra, je refuse jamais que je ne sais pas. Mm. J'accepte toujours et puis je vais faire.
Tu apprends.
Je vais apprendre. Je vais aller faire mes recherches. Mm. Je vais essayer de
bon étudiant.
Ouais, je vais essayer de comprendre et quand je suis sur le terrain, je vais exécuter. So, j'avais pas de problème technique. Mais non, le challenge que j'avais, c'est...
L'anglais, la langue, non?
C'est la langue. C'était une émission...
Ouais. Tu vois pourquoi on a Michel Joseph?
Yeah. C'était l'anglais. Une émission live, ouais. Où il y avait toute une équipe de production, où tu avais les réalisateurs, tu avais les producteurs qui te parlaient dans les oreilles pour te donner des instructions.
Bien sûr.
On est arrivé là, moi j'étais à l'aise, il y avait plusieurs mondes, je faisais mes selfies, j'étais impressionné, j'ai vu
les caméras. Il y a de quoi?
J'ai vu toutes ces caméras-là que j'ai rêvées dans les films. J'ai vu ça en live. Quand on m'a mis devant la caméra, j'étais là, on m'a fait confiance, on parlait techniquement, là, qu'on nous a donné, on nous a dit ok, on commence, on a fait les répétitions. Mon frère, je te jure, quand on a commencé à me donner des instructions, j'étais à mon tour, on disait pan left, pan right,
ouais.
Ça j'avais compris, mais quand on m'a dit tilt tap, j'ai dit tilt, c'est quoi, je savais pas, j'ai fait une erreur, j'ai zoomé.
Ouais.
La réalisatrice, c'était mon tour. Elle m'a donné la caméra. J'ai vu qu'elle m'a parlé à deux reprises. Elle a vu que je faisais des faux plans, quoi. J'hésitais. Directement, Roger, à la fin de l'émission, le superviseur m'a appelé. Il m'a dit normalement, je devais travailler jusqu'à 17h. J'ai travaillé de 8h à 10h.
Wow!
On me remercie, on me dit, va d'abord à la maison, we're gonna call you.
Donc, vas-y, on va t'appeler plus tard.
On va t'appeler. À ma grande surprise, normalement, on m'a dit, on va t'appeler. J'ai attendu une semaine, on m'a pas appelé. Je reçois dans mes mails mon chèque.
Oui.
Et...
Non, tu blagues.
Oui.
Ah bon?
Mon chèque.
Clairement.
Oui, avec une lettre de remerciement. Avec une lettre de remerciement pour me dire que c'est bon.
Ouais.
Je savais pas quoi dire à Robert, j'avais honte. C'est la honte. Lui, c'était un chef là-bas. Il m'avait recommandé. Mais ce qui était plus marrant, que Robert n'avait pas give up on me. Il savait que c'était...
Donc, il n'a pas abandonné.
Il ne m'a pas abandonné. Ouais. Il savait que c'était...
C'était important.
C'était la langue.
Ouais, c'était la langue.
Il a essayé de m'orienter dans d'autres opportunités où on n'avait pas forcément besoin de parler anglais.
Ouais.
Il m'a donné des contrats de montage.
Ouais.
Montage où,
Que tu puisses subvenir aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Voilà, tu as gagné quelque chose.
Petit à petit, c'était comme ça. Oui. C'est comme ça que j'ai connu.
Que tu as connu Robert. Merci de nous raconter cette histoire parce que c'est très important aussi, parce que si tu puisses nous raconter cette histoire pour qu'on comprenne un peu, pour que ceux-là qui sont même en train de nous écouter comprennent c'est qui Robert.
Ouais.
Et Robert, son nom de famille, c'est.
C'est Robert Irvin Jackson.
Robert Irvin Jackson, n'est-ce pas? Ouais, un Afro-Américain. Il a quel âge aujourd'hui?
Il a précisément 82 ans.
82 ans, voilà, pour nos auditeurs qui sont en train de nous... Parce qu'ils peuvent peut-être croire que c'est un teenager ou c'est un... Non, il a 82 ans, donc c'est un vieux quand même qui a vécu. Et nous allons revenir pour en parler. Michel, on va passer à une autre chanson, à Country, en ce moment. Et nous allons revenir encore pour parler maintenant, introduire c'est qui Robert, c'est quoi ce film, pourquoi ce film. Notre invité va nous en parler dans un instant. La musique. Sticking to her Timberland boots. écoutez Ram Show, une émission de Voix Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Merci infiniment de vous joindre à nous, comme vous le faites d'ailleurs chaque soir, entre 20h et 21h, temps universel. Merci infiniment à vous si vous êtes en train de nous capter, aussi à Lunda Norte si vous êtes en train de nous capter à Brazzaville, à Pointe-Noire. Merci infiniment pour tous les messages que vous êtes en train de nous envoyer en ce moment. Je salue d'ailleurs en passant nos amis qui nous captent aussi à Bamako, au Mali, à N'Djamena, au Tchad. Merci à Hamza, le tailleur, qui nous capte à Niamey, au Niger. On n'oublie pas aussi, je vois un message qui vient de nous écrire, je pense, c'est Daniel qui est en train de nous capter. Daniel qui nous capte à Bukavu. Merci beaucoup, Daniel, à Xanti, Bissimoa, de nous capter, bien sûr, à Bukavu. Et bien sûr, tous les amis qui sont en train de nous capter à Kinshasa, Mokili Yayawe. Et bien sûr, notre invité, c'est notre collègue, le réalisateur du film Frame of Hope, qui est un film qu'il a réalisé, un film documentaire. Et bien sûr, l'acteur principal de ce documentaire, c'est John...
Robert Jackson.
Robert Jackson, voilà. Alors, Sims, mon ami, encore une fois, merci d'être là avec nous. Pourquoi avoir choisi ce thème Frame of Hope et pourquoi avoir décidé de mettre Robert en lumière?
J'ai choisi le thème de Frame of Hope. Je n'ai pas choisi dès le départ. Quand j'ai commencé à faire l'histoire, je n'avais aucune idée de...
Mais quelque part, est-ce que...
Ouais.
Robert t'avait inspiré juste?
Ce qui m'a inspiré chez Robert, c'est la façon dont il a grandi. C'est quelqu'un qui a grandi avec beaucoup de challenges. Il a grandi avec une mère célibataire qui avait divorcé avec son père. Et chaque fois qu'il était avec sa mère dans son enfance, sa mère ne le traitait pas très bien parce que à chaque fois, apparemment, quand sa mère le regardait, ça lui rappelait son père. Sa mère lui disait qu'il n'allait pas être quelqu'un, tout ça. Après, à part ça, Robert avait des problèmes de sur son quand il était à l'école, il était dyslexique, il comprenait pas la matière comme tout le monde, il comprenait les histoires à travers, à l'envers, ça devait prendre beaucoup de temps pour qu'il puisse comprendre. Et quand il était à l'école, beaucoup de gens se moquaient de lui que il a pas de place à l'école, il fallait qu'il rentre. Au fil du temps, quand il grandissait, il avait ces problèmes de confidence, de self-esteem, quoi. Et comme vous savez, ça, c'est à l'époque où on a, avant les droits, c'est les droits civiques? Les droits civiques. Ouais. À l'époque, là, il y avait une partie, les pays étaient un peu divisés. Il y avait des quartiers où il y avait que des noirs et d'autres quartiers, il y avait que des blancs. Dans le quartier,
c'était à cette époque-là que lui grandissait aux États-Unis.
Oui, ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, il n'y avait pas beaucoup de chance.
Pour les noirs américains.
Pour les noirs. Robert était exposé à la drogue pour s'en sortir. Il était dans cette turbulence-là, dans la drogue. Ouais.
Robert, c'est lui qui est à l'écran. Si notre caméra, si nos amis nous voient ça très bien, mais en tout cas, Robert, si vous voyez bien l'écran, c'est lui qui est derrière. Ouais.
Il avait beaucoup de troubles et à un moment là on l'allait même arrêter. Après ça, ils se sont mis ensemble avec un groupe d'amis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer nos vies? Ils ont décidé d'aller dans l'armée. Dans l'armée aussi, c'était pas aussi facile pour les Noirs. C'était à l'époque où il y avait la guerre des États-Unis contre le Vietnam. Tous les Noirs qui étaient aussi dans l'armée, ils étaient aussi maltraités aussi. Il y avait le racisme dedans. Robert, il était fracturé. Il cherchait, quand il est arrivé dans l'armée, il s'est demandé qu'est-ce que je peux faire. C'est alors qu'il a découvert, il a cherché à apprendre la photographie.
Ah, d'accord.
Même la photographie dans l'armée, on lui a mis des barrières. C'était difficile. Il fallait qu'un membre du Congrès puisse écrire une note. C'est alors qu'on lui a donné une note. c'est quand on lui a donné on lui a permis d'apprendre la photographie. Après, quand il a pris sa retraite, Robert a eu à travailler dans des grands médias américains. Il a commencé avec ABC Télévision. Après, il est parti à BT comme directeur des opérations audio. Après, il a travaillé avec CNN, il a travaillé avec NPR, il a travaillé avec NBC. Mais tout ce qui fait la grandeur de Robert, c'est pas toutes ces positions-là. C'est la façon dont il traitait les hommes noirs. So, il s'était juré avec tous ces challenges qu'il allait toujours donner la chance à tous les hommes noirs. Pas seulement les hommes noirs qui sont bien assis, c'est tout le monde, tous les gens qui ont des challenges d'apprendre, tous les gens qui ont des problèmes dans la société. C'est pour cela que même moi, quand j'avais des problèmes de langue, il était patient parce qu'il s'y voyait lui-même, parce qu'il a eu des challenges pour apprendre à l'école, il avait tout ça. Mais en gros, c'est un monsieur qui a un très grand cœur. Il a donné beaucoup d'opportunités, même à travers le documentaire. Moi, je ne connaissais pas la plupart des personnages. Je lui avais demandé une liste. Je lui ai dit, j'ai besoin de tel. Donne-moi une liste.
C'est très important.
Et il n'était pas là.
Il n'était pas là.
Sauf quand on faisait, tout le monde parlait presque la même chose. C'est un monsieur qui a donné.
Ouais. Et Steve Garda, on va prendre un petit break dans un instant. On va revenir pour en parler. Mais c'est très important ce que tu es en train de dire. Parce que Robert, comme tu l'as dit si bien, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Et on va continuer à en parler. Moi, j'aime beaucoup quand tu dis ça, qu'il a un très grand cœur, qu'il aide tout le monde autour de lui. Nous revenons pour parler, bien sûr, avec Sims Lumami. Les amis, si vous êtes en train de nous capter, n'allez nulle part ailleurs. On continue dans cette émission, bien sûr, comme d'habitude, dans RM Show. N'allez nulle part ailleurs. Je ne peux que vous dire, comme d'habitude, God bless. Peace Africa.
RM Show est une émission bizarre et du monde musique bizarre. Tu vas y connaître.
Remix branché sur la voix de la mec, ta belle et tu pars rater. Bon, ça, chaque après-midi, avec Roger Monto, RM Show. Trois avec un bon pilote et qui toujours atterrit en sûreté. Avec bonne musique et tout son balle. Roger Monto, RM Show, sur la voix de la mec.
On décolle.
This is our RM Show. Let's go. Give me camera, please. This is RM Show, let's go les amis. Vous écoutez RM Show, une émission de Veu Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Merci infiniment si vous êtes en train de nous capter ce soir à Pointe-Noire. Merci aux amis qui sont en train de nous capter à Bamako, au Mali. Merci aux amis qui sont en train de nous capter à Conakry. Et bien sûr ceux-là qui sont scotchés en train de nous capter à Libreville. Et bien sûr à Pointe-Noire, vous êtes nombreux à avoir réagi à notre sujet de la semaine. Je vous rappelle que ce sujet, on va finir avec ce sujet de vendredi. Vous êtes beaucoup à avoir réagi et je vous rappelle que ce sujet est très important pour tout le monde, surtout les amis qui nous ont écrit aussi de Lomé au Togo. Ils ont beaucoup réagi à ce sujet. Et donc, n'allez nulle part. Je sais que je vois beaucoup de vos messages. Vous êtes en train de me demander si on va finir à ce sujet aujourd'hui. Pas du tout, parce que demain et aussi vendredi, on aura Lionel Gaïma, Jean-Louis Mafema pour terminer avec ce sujet qu'on avait commencé. Dans ce studio, bien sûr, nous revenons avec notre ami Sims Lumami. Sims Lumami qui nous parle de Robert Irvin Jackson. Mais Sims Lumami, d'abord, il y a un monsieur qui nous écrit, c'est Igor Poutou qui nous dit « L'histoire est vraiment belle et chagrine. » Le film sort quand exactement ? Alors, que, je sais que c'est un produit VOA, Voice of America, effectivement, parce que Sims travaille ici à VOA. Quand est-ce que les auditeurs, les téléspectateurs, je sais que là, grâce à Michel, on est en train de voir un peu de clips par-ci par-là, mais quand est-ce qu'ils pourront voir ça en, en, dans son entièreté?
Sur les documentaires, la sortie officielle, c'est les 12 avril.
Le 12 avril,
oui. Et
c'est une version d'abord anglaise, hein?
Yeah, on sort la version anglaise. La version française sortira une semaine, la semaine d'après, sauf vers le 20 ou le 24 avril, la version française sera disponible aussi. Et on va le partager, ça sera sur YouTube et sur notre site et d'autres chaînes partenaires en Afrique où, et partout dans le monde vont le partager aussi.
Ah, ça c'est très important. Donc,
ouais, les
affiliés de Voice of America dans le monde pourront aussi avoir ces versions anglaises et français aussi. Mm-hmm. Ça sera vraiment super. Mm-hmm. Alors, je sais que dans ce projet, vous avez travaillé aussi avec certains de nos collègues, Michel Joseph,
Lionel
Gaïma, Kali et tout ça.
Yeah. Mm-hmm.
Et ça, ce sont des collègues qui vous ont aidé, qui t'ont aidé à réaliser ce film. Par là, je vais demander, parce qu'il y a des filmmakers qui sont en train de le capter, est-ce qu'il y avait quelques difficultés, challenges que tu as rencontrés personnellement en tant que réalisateur de ce film?
Oui, ce qui était vraiment challenging ou compliqué sur ce projet, c'est dans la plupart des temps, tu vois, quand on parle d'un film ou un documentaire, il y a plusieurs rôles à jouer. C'est pas seulement que les 30 minutes là.
Mm.
So, sur ce projet, normalement, quand il y a un réalisateur, on doit avoir un monteur, on doit avoir les caméramen, on doit avoir les ingénieurs son, doit avoir les graphiques et tous ces gens-là. So, ce qui était plus compliqué, c'est que on n'avait pas d'abord le temps, on n'avait pas les luxes d'avoir toutes ces casquettes-là. So, j'ai eu l'aide de plusieurs collègues. So, Lionel qui était l'un des caméramans sur le projet et moi-même j'étais caméraman. Je me suis retrouvé à faire plusieurs rôles moi-même parce que j'étais dans l'histoire. Il fallait jouer ces rôles. Je me suis retrouvé moi-même monteur, moi-même ingénieur de son, moi-même qui faisait les sons.
Beaucoup de choses en même temps.
Beaucoup de choses.
Exactement.
Ça m'a pris pratiquement, je dirais, presque 3 mois. C'est pas que je travaillais. J'étais là jour et nuit. Et quand je venais, comme je n'avais pas un autre réalisateur, normalement quand tu travailles sur ce genre de projet, tu dois avoir un réalisateur qui te donne un autre point de vue de comment faire la démarche. Mais moi, je me suis retrouvé même. Ce que je faisais, j'utilisais les opinions de plusieurs personnes. Quand j'arrivais au travail avec plusieurs collègues, chaque fois que j'avançais, j'appelais quelques collègues, j'ai dit, Roger, viens regarder comment tu trouves. Comment tu trouves la direction? J'appelle Michel, comment tu trouves la direction? Et je prenais le point de vue de tout un chacun, mais je savais où je partais avec l'histoire.
Ouais, tu voulais voir un peu comment ça.
Il n'y a pas seulement les professionnels dans le média, j'appelais même d'autres amis sur Zoom.
Qui ne sont pas.
Qui sont même pas professionnels, juste, mais montrer comment ils vont et comment ils se ressentent, comment est-ce que l'histoire est captivante, est-ce que quelqu'un peut regarder ces films, parce que c'est un long film de 30 minutes, est-ce que quelqu'un peut être là à regarder 5 minutes. Et quand j'ai demandé aux gens, j'ai demandé pas de venir regarder toutes les 30 minutes, j'ai demandé, est-ce que tu peux me donner 3 minutes de ton temps? Et chaque fois, ce qui me motivait, chaque fois j'ai demandé aux gens de regarder 3 minutes, les gens ne regardaient pas 3 minutes. On s'est retrouvés, ils étaient à 25 minutes.
Wow.
Et ça m'a donné encore le courage. Je ne dormais pas, je travaillais jour et nuit. Et en même temps, normalement, quand tu es sur ce genre de projet, tu dois te concentrer sur le projet seulement.
Bien sûr.
Mais moi, j'avais d'autres assignments parce que il y avait d'autres projets journaliers qu'il fallait exécuter et je pouvais pas aussi prendre off sur ça. On était court sur, là que je devais, comme on dit, il fallait multitask. Je devais être En même temps, je travaillais sur ce projet. En même temps, je devais produire d'autres émissions. En même temps, je devais monter d'autres reportages.
Yes.
Et ça, ça m'aidait, ça m'a motivé. Chaque fois que je rentrais, et ce qui m'a motivé, c'est chaque fois même dans mes pensées, même quand je dors, si je vois quelque chose, une idée me vient. Parce que j'ai trois ordinateurs chez moi. J'ai un dans le salon, dans ma chambre, et puis un laptop. Si je vois que quelque chose m'arrive au milieu de la nuit, je change, seulement comme ça. C'est un peu ça. C'est vraiment, comme on dit, j'avais toujours la foi, j'avais toujours l'espoir de finir ce projet.
Définir ce projet.
Yeah.
Comment tu te sens?
Je me sens libéré et fier.
J'adore le mot libéré.
Je t'ai dit que j'ai travaillé encore sur ce projet hier soir, tu vas pas croire.
Allez, arrête.
Non, tu sais qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce que tu fais encore?
Non.
C'est ça qu'on dit avec vous les réalisateurs, vous n'êtes jamais satisfait. Jusqu'à la fin.
Tu sais, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, Robert était très malade. Il était...
Quand tu as commencé?
Quand j'ai commencé les montages, j'avais fait les premières prises avec lui, ses interviews, mais il fallait rajouter d'autres trucs. Donc quand Robert, on lui a fait une très grande opération et on lui a changé ses reins, on lui a mis un transplant. Donc ça lui a pris du temps pour chaque fois, parce que j'avais besoin des images, des éléments d'archives ou peut-être lui prendre des inserts. C'était un peu compliqué, parce que j'étais un peu limité. Il y a de ces histoires, j'étais obligé, même la voix qu'on a utilisée dans l'intro, c'est la voix de Robert à l'hôpital, qui m'a enregistré avec sa voix de malade. Il était sous perfusion.
C'est pas vrai.
Il m'a fait ça avec son téléphone.
Non.
Oui.
Ça, c'est
et
ça.
Et moi-même, j'ai essayé à plusieurs reprises d'aller à l'hôpital, parce qu'on voulait avoir des scènes à l'hôpital. Pour essayer d'ajouter.
On a demandé. Et il avait accepté?
Yeah, lui, il avait accepté. Lui, on est des fous. Il sait même.
Je pense à tout ça.
Yeah, ouais. On a demandé le credential pour venir à l'hôpital. Ça prenait du temps. So, j'ai dit à Robert, demande à ta femme, j'ai besoin juste qu'on me filme avec le téléphone.
Ouais.
Vous m'envoyez. Et en même temps, j'attends.
Et elle a fait ça.
Elle m'a envoyé un plan que j'ai utilisé au départ. So, on a essayé, Robert, quand il récupérait. On nous a donné les feux verts à l'hôpital de venir. Mmh. So, j'ai booké mon premier vol, mais Robert n'était pas en forme. Ah. So, les médecins m'ont demandé de patienter. J'étais obligé d'annuler mon vol.
Mmh. Mmh.
So, c'est après.
Et ça, c'est à Miami?
Oui, il est en Floride. So, quand finalement Robert était en forme, et il a encore rechuté. C'est alors qu'il m'a dit tu peux venir. C'est à une semaine que je suis parti prendre les images maintenant de l'hôpital.
Donc moi, je n'ai pas vu ces images-là.
Non, la majorité des gens n'ont pas encore vu
les images de l'hôpital.
So, beaucoup de choses ont changé. Il y a des interviews qu'on a rajoutées, il y a des éléments qu'on a ajoutés. So, c'est encore plus riche.
Oui, plus riche. Il ouais. Ne faut pas ajouter Roger Montou là-dedans.
Non, c'est fini. Maintenant, là,
ouais, c'est
on
ça.
A submis.
On s'est pas fini. Mais tu as dit quelque chose de très important. On va passer à une chanson tout de suite, mais avant qu'on puisse passer à cette chanson... Tu as parlé de comment Robert t'a montré cette façon différente que tu avais ou que les gens parlent des Afro-Américains parce que c'est cliché que les Africains parlent. Parce que dans ces deux communautés, il faut le dire, moi j'en ai vu, en tout cas entre les Africains et les Afro-Américains, il y a toujours ce combat entre les deux où il y a toujours des malentendus, si je dois dire comme ça. Mais Robert t'a montré le côté que tu t'attendais pas à ça, quoi, d'après tout ce que tu avais entendu parler des Afro-Américains. Alors, ma question, c'est de savoir comment tu penses que ce film, parce que ça montre le côté de Robert, on entend Robert, comme tu le dis si bien, parler de sa vie, comment il a grandi, comment il avait été, ses problèmes qu'il avait et comment il les a. Mais comment tu penses que Frame of Hope, ce film, aura un impact, n'est-ce pas, pour susciter des conversations significatives entre ces deux, entre ces deux groupes. Parler aussi de l'unité, de la solidarité. Tu penses que Frame of Hope peut, quand quelqu'un va suivre ça, il aura une autre image aussi de...
Oui,
c'est surtout les Africains qui vont
faire ça. Oui, déjà quand avec les titres qu'il dit lui-même, il faut avoir de l'espoir. Il faut avoir. Quand tu es quelque part, selon moi, il faut essayer de planter les racines. La plupart de nos frères, ce que je conseillerais à nos frères, quand tu arrives quelque part, ne te sens pas que tu es étranger. Tant que tu te sens étranger, que tu es là temporairement, tu ne vas jamais planter quelque chose que tu seras, tu vas te sentir que je suis à la maison. Il y a des gens qui se sentent, même si, même malgré leur temps ici aux États-Unis, il y a des gens qui ont 25 ans, mais quand tu as des conversations avec nos frères africains, ils te disent toujours, c'est pas chez nous ici. Chaque fois quand tu te dis ça dans ta tête, tu peux pas faire grand chose. Tu regardes seulement à la maison, chez toi en Afrique. Mais par contre, quand tu viens ici, quand tu migres ici, c'est devenu chez toi automatiquement. So, il faudra que tu t'intègres, il faudra que tu te connectes, avec le monde, avec les gens.
C'est pas seulement le noir,
ouais. c'est tout le monde.
C'est la culture américaine.
Parce que moi, dans mon expérience, parce que j'ai fait un peu du tout, je suis dans la musique, je suis dans la technologie, j'ai mes cycles. Quand je veux faire, par exemple, la musique, j'aime toujours travailler avec les gens qui font la vraie musique. Je ne veux pas faire la musique avec des amateurs de musique. Je veux aller chercher les professionnels pour mieux apprendre. Si tu es ici aux États-Unis, si tu veux vraiment t'en sortir, il faudra apprendre la culture américaine.
Très, très important, bon conseil. Et surtout, les amis qui sont en train, bien sûr, de nous capter ici aux États-Unis et partout dans le monde. C'est un bon conseil que Sims nous donne tous. On va respirer en musique, country music, comme bien sûr, vous le savez, chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Un back yet, on écoute country music. RMC, une émission de VAfrique en direct de Washington et d'ici la capitale américaine. Vous ne les avez pas entendus depuis le début de cette émission parce que bien sûr nous avons le réalisateur Sims Lumami comme invité, mais finalement ils ont dérogé. Nous, on peut tout rater dans RMC, mais pas la blague du jour. Les deux, vous les connaissez, c'est Jean-Louis Mafema et bien sûr Lionel Runanira Gaïma. Bien sûr, ils sont là. La blague du jour, c'est tout de suite. Et
voilà, bien sûr, la blague du jour, comme chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Merci aux amis si vous êtes en train, bien sûr, de nous capter, comme vous le faites chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Bonsoir, Jean-Louis Maffema.
Bonsoir.
Le micro
bonsoir,
de Jean-Louis.
Bonsoir, Roger.
Voilà, bonsoir, Lionel Roumanira Gaïba.
Bonsoir, Roger Tchondo Muntu.
Très bien. Il y a un autre qui est Yamoukole. C'est Roger Tchondo Moukole. Moukole, Moukole, comme ça, t'aimes qu'on prononce ça.
Roger Tchondo Moukole Muntu. Mon nom, c'est ça, occidental.
Et toi, chez moi, au Kassai, on t'appelait Kayima.
Comme j'étais grand caillard. Un grand caillard, Kayima.
Kayima. Alors, on commence avec la blague de Lionel ce soir.
Écoute, c'est une dame qui s'appelle Conchita. Je sais que tu parles espagnol, mais Conchita voulait une augmentation et la maîtresse de maison est très énervée par cette requête et lui demande « Et pourquoi vous voulez une augmentation, Conchita ?» Eh bien, madame, pour trois raisons.
Oui.
La première, c'est que je repasse mieux que vous, madame.
Mm.
Et qui vous a dit ça ? C'est monsieur qui m'a dit ça. Ah bon ? La deuxième, c'est que je cuisine mieux que madame. Sornette. Et qui vous dit que vous cuisinez mieux que moi ?
Ah, ça c'est une très bonne question.
C'est monsieur qui dit que je cuisine mieux que madame.
Ah bon ?
Tiens, tiens, tiens donc. Et la troisième raison, Conchita. La troisième raison, c'est que je fais mieux l'amour que madame. Non, mais...
Et c'est monsieur qui vous a dit ça.
Non, madame, c'est le jardinier.
Oh. Alors, très bien, Conchita, vous avez votre augmentation. C'est fini. You got it. You got it.
Tu peux pas refuser ça.
Non, comment tu vas refuser ça? Non, tu vas refuser ça.
Tu refuses ça, c'est un problème.
Sinon, ma grande compliment.
Jean-Louis Tablan.
Je vais voir si vous êtes fort en maths.
Ouais, vas-y. Moi, je suis fort.
Alors, c'est un monsieur qui va chez son docteur. Il dit, docteur, j'ai un problème. Docteur dit, qu'est-ce que tu as comme problème? Il dit, docteur, j'en ai trois. Le docteur dit, vous en avez trois? Il dit, oui, j'en ai trois. Vous avez, comme tous les hommes, en ont deux.
Ouais.
Hein, juste, tu vois, au milieu, là. J'en ai trois. Le docteur dit, ah bon? Mais c'est bien, mais c'est un signe de puissance, monsieur, c'est bien. Soyez fiers. Uh-huh. Alors, le type sort de son médecin, il va dans le métro. Il est tout fier, là. Il rencontre un autre gars. Il dit, mais Roger, tu sais que, à nous deux, on en a quatre. Alors on se dit, ah, tu n'en as qu'une.
Bon, ben, écoute. Alors, moi, ma petite blague, vous connaissez tous les gens. Je comprends jamais ça, il faut m'expliquer. Il y a toujours des grands, comme Lionel disait, des grands caillards qu'on appelle bébé, bébé, bébé. Tu vois voir un monsieur comme Lionel, comme ça, barbichette blanche comme moi ici, on t'appelle bébé. Et tu aimes bien quand,
comme bébé,
une copine comme tu vois.
Ça dépend d'où ça vient.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Non, mais tu entends les bébé, mon bébé.
Oh, Lionel, c'est mon bébé de quelqu'un.
Mais j'aime pas ça quand les filles m'appellent ça. Bon, moi, tu es mon bébé. Lionel était mon bébé, Jean-Louis était mon bébé. Alors un docteur a dit, d'accord, il a mis l'annonce à la télévision. À tous ces hommes qu'on appelle bébés, il y a vaccin de rouleur. Je rougeole demain matin à 10h.
Ah mais oui, si tu es bébé, bon, tu as besoin d'un vaccin.
Lionel, puisque que tu n'as pas été là-bas, j'ai dit que personne ne s'est présenté.
Ah ouais, c'est sûr.
Je dis, personne ne sait.
Non,
arrêtez de vous faire appeler bébé.
Non, mais il faut arrêter ça.
Arrêtez de vous faire bébé. Allez, bébé.
Voilà quoi le temps pour une petite encore.
Ah, tu as une petite?
Vas-y, vite. Juste, c'est au travail, chaque semaine, je donne. Ça, c'est un monsieur qui parle à son ami.
Dis, qui parle à son ami, oui.
Il dit, au travail, chaque semaine, je donne 100% de travail. Il dit, lundi, je donne 10%. Mardi, 42%. Mercredi, 18%. Jeudi, 25%. Et vendredi, 5%. Ça, le total, c'est 100%.
Voilà, merci en tout cas, Lionel. Merci à Jean-Louis. La musique continue. Frame of Hope, c'est son film Frame of Hope. Lui, c'est Sim Zolumami, notre collègue, un film documentaire que vous allez tous voir, en tout cas, si vous êtes abonné de VOA Afrique, de Voice of America, ici à Washington. Si vous êtes amoureux de RM Show, vous allez aussi suivre ça ici, dans cette émission, parce que Sim nous a promis qu'on aura aussi une version française. Jean-Louis Mafema, un peu, je veux savoir ton commentaire sur un collègue qui a fait un film aussi important que si vous êtes en train de le dire ce soir.
Non, mais c'est très encourageant parce que maintenant ça va me pousser aussi à faire aussi mon documentaire aussi.
Ah, vraiment, voilà. Il faut.
Mais, non, mais c'est une très bonne chose que La Voix de l'Amérique ait pu lui donner cet espace et ouais, pour qu'il puisse réaliser ce grand projet parce que, au fait, on en a besoin. La voix de l'homme noir, je dirais, est aussi importante que celle des autres et on a besoin de donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire des choses. Et les Noirs dans les médias, pour nous, c'est très important parce que ça nous sert aussi de modèle, tu vois, quand on a vu les autres le faire.
Exactement.
Parce que moi, quand j'étais au pays, je suivais les gens comme les Rougier Difoli, Georges Collinet, ici, La Voix de l'Amérique et tout. Et bon, aujourd'hui, on est là. Et oui, alors on regarde ce que Steam fait. Bon, demain, on va aussi vouloir faire comme ça. Et avec son aide, ouais, on peut aller très loin.
Effectivement, et comme Steam est aussi en train de donner des conseils aux jeunes réalisateurs aussi qui veulent se mettre là-dedans, il nous expliquait comment ça n'a pas du tout été facile de faire cela. Et du coup, d'ailleurs, ça me pousse aussi à poser cette question à Steam Zolumami. Quelle leçon, si je dois dire, ou quelle idée as-tu, toi personnellement, Sim Zolumami, tiré du parcours de Robert et de la création même de Frame of Hope? Tu sais que tu as bien décrit Robert, qui il est, qu'est-ce qu'il représente pour toi. Mais qu'est-ce que tu as appris de ce monsieur aujourd'hui où tu peux dire, waouh, ça c'est ce que j'ai appris de ce monsieur?
Ce que j'ai appris de Robert, c'est de ne jamais perdre l'espoir. Et aussi savoir lever la voix. Ça m'a donné du courage. Maintenant là, les gens me disent que je suis devenu encore plus agressif. Quand je veux
attends.
Ouais.
C'est très important ce que tu dis.
Ouais.
Lever la voix.
Ouais.
Dans quel sens et comment? J'aime beaucoup ça. C'est très important.
Oui. La plupart des gens, les gens qui me connaissent, je suis un gars très
un peu mellow, comme
ouais, mellow. Oui. Si je fais mes histoires underground je ne pousse jamais. Quand je me suis plongé dans cette histoire à fond, c'est vrai qu'on parlait depuis tout ce temps, je connaissais très bien l'histoire de Robert. Ce que j'ai appris plus avec cette histoire, c'est de savoir lever sa voix, savoir comment demander. Que de ne pas se limiter au parce que je ne sais pas écrire, parce que je ne sais pas me présenter, ou pour entrer dans ce bureau ici, il faut être comme ça. Ça m'a donné l'espoir de dire.
Et le courage.
Je me présente en tant que Sims. Que tu sois, par exemple, aujourd'hui, j'ai le courage d'entrer dans n'importe quel bureau. Dans n'importe quel bureau pour demander ce que je veux. Au moins, essayer. Si il y a pas de limite quoi. Si je veux quelque chose, je peux aller aujourd'hui. Je peux me dire, j'ai rêvé toujours quand je venais ici. J'ai rêvé un jour de collaborer, de faire des histoires avec des artistes américains. Mais aujourd'hui, je les ai fait. Faire des histoires sur des grands festivals. Je les ai fait. Mais plus c'est le courage d'aller affronter. Il n'y a pas de limite, comme on dit sky is
the limit.
Aujourd'hui, si je rêve, je dis, je vais aller parler au président Joe Biden, j'irai. Parce que dès que j'ai le courage, je peux trouver quelqu'un qui connaît ou quelqu'un qui connaît comment entrer chez Biden. C'est un peu ce que j'ai appris chez Robert. Malgré tous ces challenges, quelqu'un, si tu regardes quelqu'un qui était maltraité dans son enfance, quelqu'un qui était dans la drogue,
moquait de lui.
Mais à la fin de la journée, c'est un grand monsieur qui a une très grande parcours dans le média. Et après, il s'est pas arrêté seulement avec son parcours. Il donne aussi à la société.
Moi, c'est ça, c'est le côté le plus
important. Même quand il était à l'hôpital, c'est parce que tu connais là, les gens, comment ils sont quand tu es fatigué. Maintenant là, chaque fois que je parlais avec lui, il me disait. Sims, tu sais, je ne suis pas sûr que je pouvais donner cette histoire à quelqu'un d'autre ou à n'importe qui. Je suis quelqu'un de très réservé avec d'abord mes relations. Je ne sais pas, so, je t'ai donné à toi. So, on est arrivé, tu connais quand tu as ton mentor, vous grandissez avec des niveaux de confiance. Il y a de ces histoires qui te donnent maintenant, il y a de ces histoires qui te donnent graduellement. So, on est arrivé maintenant, là, quand je discute avec Robert, je ne discute pas comme si je discutais avec un mentor. Mmh. Je discute comme avec un ami.
Wow.
C'est un peu.
Et malgré cette différence d'âge,
oui, on discute, on peut s'appeler n'importe quand et il peut me donner tout ce que je lui demande, sans limite, sans avoir peur que je vais salir sa réputation. C'est un peu ça.
Moi, ce que j'ai aimé le plus chez lui et dans le documentaire, c'est le fait de travailler avec les enfants. C'est l'avenir. Mm-hmm. La vie, c'est une course de relais, tu vois. Tu apprends, mais tu donnes aux autres. Avant de partir, tu donnes aux autres. Tu les laisses continuer avec ce que tu as commencé. Pour moi, c'est le truc le plus important. C'est mon combat, en fait. Et c'est ce que j'ai aimé. Comme ça que tu as commencé avec lui d'ailleurs, parce que je me rappelle
il nous a dit, d'ailleurs,
quand tu en parlais.
Ouais. Exactement. Voilà. Merci en tout cas, on s'approche vers la fin de cette émission. Merci infiniment à Steve Zoumami. Félicitations en tout cas pour ce produit. Et je suis sûr que nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir sont déjà impatients de voir ce film. Et comme tu nous as si bien promis, nous sommes impatients. Ce film, on va faire passer ça partout sur nos réseaux sociaux. Quand ça sort, vous saurez que c'est Steve Zoumami, le réalisateur de ce film, qui montre vraiment ce côté des Afro-Américains qui font la différence, en tout cas dans ce pays. Merci à Michel Joseph, merci à Patrick Lumumba, merci infiniment aussi à Zenaba qui nous ont aidé à produire cette émission. Please don't go, we gotta go now, have a good night. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. Please don't go.